toi, de ton fils bien-aimé. Et en effet, nous comprenons maintenant pourquoi il est bien-aimé à ton cœur. Et pourquoi nous sommes bien-aimés de toi lorsque nous avons pris notre place en lui. Et nous te remercions de son œuvre si merveilleuse, de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il est pour toi et de tout ce qu'il sera pendant l'éternité. En effet, il est la gloire du ciel parce qu'il a accompli une chose que personne d'autre n'aurait pu faire. Et il t'a acquis un peuple d'adorateurs qui t'adore en esprit, en vérité. Ô Dieu Père, nous te demandons en effet que nous puissions apprendre cette leçon au cours de l'année qui vient et être de ceux qui sont prompts à adorer et à adorer tous les jours, constamment, parce que toi tu en es digne et ton Fils aussi. Et cela nous te disons au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui on va parler du Dieu Saint et on va parler aussi de trois choses qui sont dans le lieu saint. Et il y avait d'abord une table. Quand on entrait dans le lieu saint, on passait par un rideau, et puis derrière ce rideau à droite il y avait une table, une table sur laquelle il y avait les pains de la présence. Or cette table n'était pas énorme, c'était une table qui avait à peu près 1 mètre sur 1 demi-mètre, donc c'était pas très grand. Et c'était une table qui était portable, et il y avait des barres dans cette table. Et sur cette table, on mettait plusieurs choses. Mais entre autres, on mettait 12 pains, qu'on appelait des pains de témoignage. Et ces pains étaient plats. C'était des galettes à peu près de 7 grandeurs, comme une pizza. Et puis on mettait 6 pâtes les unes sur les autres, elles étaient cuites. Les pains sur le vin, qu'on mettait là. Et il y en avait un pain de témoignage par tribu. Et ce qui est beau, c'est que ça nous rappelle, n'est-ce pas, la prière du Seigneur qui dit ceci: donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Mais qui cuisait le pain? C'était bien sûr, probablement les Lévites. Et ces pains étaient mis là, mais un témoignage de la part de toutes les tribus que le Seigneur les avait nourris. Et il y a eu des jours et des périodes dans l'histoire d'Israël où il y avait peu de pain, où il y avait des famines, où le pain coûtait cher, le pain était précieux. Et pourtant, le pain du témoignage était là toutes les semaines. Il fallait le changer. Et le pain était un pain sacré. Ce n'était pas n'importe qui pouvait le manger. C'est seulement la famille d'Aaron qui pouvait le faire. Et on voit qu'il y a eu une entorse à cela, une seule. Et c'est difficile de dire est-ce que c'était de Dieu ou est-ce que ce n'était pas de Dieu. Toujours est-il, ça a coûté à la prêtrise énormément. Parce que quand Saül a entendu que David avait pris les pains du témoignage que le prêtre lui avait donné, sa fureur s'est embrasée contre la famille de ses prêtres et il a assassiné 350 prêtres de l'Éternel et leur famille. Donc c'était plutôt grave. Hein. C'était un très grand nombre de personnes qui ont péri. Mais ce n'était pas parce que Abimelech avait fait une faute, mais c'est parce que Saül était fâché contre David et il voulait sa vie. Et alors il voulait punir, faire une punition exemplaire, même si c'était les prêtres de l'Éternel. Et vous savez, Dieu fait beaucoup de choses, un seul acte, qui est peut-être un acte d'indépendance, mais il fait beaucoup de choses à la fois. En faisant cela, l'adoration, le service de l'Éternel a été dérangé. Il y a une énorme désorganisation parmi les Lévites parce qu'il fallait remettre des prêtres à la place de ceux qui étaient morts, n'est-ce pas? Il a fallu nettoyer la ville des prêtres, il a fallu nettoyer tous leurs biens, il a fallu trouver les héritiers, il a fallu faire tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec cette histoire. En plus de ça, quand on enlève les serviteurs de Dieu dans le champ de Dieu, ce qui se passe, c'est un affaiblissement spirituel général. Et c'est ce qui est arrivé sous Saül. Il y a un affaiblissement spirituel général. Et en lui, il n'a jamais pu retrouver la communion avec son Dieu. Jamais. Et on connaît la fin de l'histoire, quand il était cherché vers une femme de bonne aventure qui allait lui arriver dans la bataille du mont Gilboa. Et c'est là que Saül a péri. Quoi, Saül était quand même un roi qui a fait beaucoup de bonnes choses. Hein. c'est un roi qui a duré quand même 40 ans, il a fait beaucoup de bonnes choses pour Israël, mais voilà, il n'était pas un homme fidèle. Et puis surtout, il avait des colères qui ne géraient plus, et il savait qu'il était contre l'Éternel, et il ne voulait pas changer d'optique. Et vous savez, ça c'est une leçon pour nous, de d'être flexible. Ne nous mettons pas en colère si les choses ne vont pas exactement comme on veut. Ne nous accrochons pas aux choses. Laissons aller. Laisse aller la colère, nous dit l'Éternel. Il faut céder à la colère. Tant pis. Quand on est en colère, on ne peut pas prendre de décision. Surtout pas prendre de décision. C'est le moment de s'arrêter jusqu'à ce qu'elle passe. Jusqu'à ce qu'on ait la paix dans le cœur. Jusqu'à ce qu'on entende la voix de Dieu. Et jusqu'à ce qu'on remette dans sa proportion la chose qui nous irrite. Et bien souvent, l'irritation, elle vient de toutes petites choses. Des choses insignifiantes. Mais on en fait des montagnes, n'est-ce pas? Et c'est là le problème. C'est de voir le grand cadre. Alors, apprenons à voir les choses en grand. Et quand on voit les choses en grand, qu'est-ce que cette petite chose? Rien du tout. Et alors on passe par. Et la plupart des colères viennent du fait que on met le point focal sur cette chose qui revient, et qui revient, et qui revient, et qui revient. Et au lieu de voir les bénéfices de cette chose, on voit que ce qui nous irrite. Et alors, évidemment, ça commence à prendre des proportions. Alors, voyez-vous, la colère, c'est comme un grain de sable. Un grain de sable dans l'œil peut faire du mal. Un grain de sable dans une icre, ça fait une perle. Alors, où est-ce que vous voulez mettre votre grain de sable? Dans votre œil ou dans l'icre? Alors, je vous encourage. Voyez les objets de votre colère comme des grains de sable. Et mettez-les là où ça va produire quelque chose de beau. Bien, alors les pains de la présence, elles étaient là. Et ils étaient tous identiques, peu importe la tribu. Il n'y avait pas un pain plus grand que l'autre. Il n'y avait pas deux pains pour une. Il y avait les pains, étaient là. Et cela nous parle de Jésus, qui vient vers nous et qui nous dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui mangera de moi, mangera de ce pain, n'aura plus jamais faim à lui-même. Et j'espère que c'est l'expérience pour chacun de nous. Qu'il soit toute l'année, chaque jour, votre pain de vie. Vous nourrissez de lui et vous n'aurez sans faim jamais. Ensuite, ces pains, on a dit, c'était un repas sacré. Alors maintenant, il y a une question qui est là sur votre papier. Comment comprendre, alors que Jésus utilisa cet événement précis pour expliquer pourquoi ses disciples pouvaient écosser les épis le jour du sabbat? Est-ce qu'Abimelech est justifié? Je vous dis ni oui ni non. Mais vous rappelez qu'un jour de sabbat, les disciples avaient faim, et ils écossaient du blé, ils le mangeaient. C'était la portion du pauvre, n'est-ce pas? Sur les bords du champ, ils pouvaient faire ça. Et les pharisiens sont tombés sur Jésus, ils lui ont dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas ordonné à tes disciples de ne pas manger le jour du sabbat, de ne pas travailler le jour du sabbat. Et Jésus leur a donné cet exemple-là. Que même les pains du témoignage avaient été donnés à David le jour du sabbat. Je crois que, disons, ça a été une chose. Est-ce qu'Abimelech avait raison? Oui, il avait raison. Je crois que le Saint-Esprit l'a dirigé. Et il a été fidèle dans le témoignage vis-à-vis de David, sachant que lui était loin. C'était à David qu'il fallait donner ce pain. C'était loin de Dieu. Et Abimelech a vu au-delà de David. Il a vu à la descendance, par la foi, il a vu à la descendance de David. Et alors c'est pour ça qu'il lui a donné le pain. Et ça a plu à l'Éternel. Malgré que dans la colère de Saül, ils ont tous péri, eh bien ils ont péri comme des martyrs. Et c'était juste. Alors le pain du témoignage nous parle du témoignage. Il y a des fois où le témoignage va coûter. Et peut-être que vous aurez des opportunités pendant cette année où vous rendrez témoignage et il semble que tout va bien. Et tout d'un coup, la personne ou les personnes se retournent contre vous. Et ne vous en faites pas. C'est normal. C'est normal que les gens se retournent contre nous. Il ne faut pas croire qu'on va mettre la fanfare pour nous souhaiter la bienvenue. Quand on donne l'évangile, même avec beaucoup de douceur, quelquefois, ça se retourne contre nous. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais qui, là-bas, voit la personne à qui vous parlez, et puis, à un autre moment, dit à cette personne, mais t'es folle, pourquoi est-ce que tu vas parler à ce gars? C'est un chrétien, c'est un gars qui veut te convertir, c'est un gars qui est dans une secte. Non, mais tu n'y songes pas, n'est-ce pas? Et alors, il y a cet opprobre. Mais rappelons-nous que l'opprobre de Christ nous aide à compter sur lui, à marcher avec lui et à l'humilité. Et le plus d'humilité nous avons, le plus de grâce nous avons. Et le plus de grâce nous avons, le mieux nous voyons la volonté de Dieu. Le mieux nous la comprenons. Donc c'est de nouveau ce procédé qui continue à nous perfectionner, à nous sanctifier à l'image de Christ. Ensuite, si Christ, lui, a reçu l'opprobre, eh bien, nous ne sommes que lui, dans le sens de notre ministère. Ensuite, il y avait sur le côté gauche du Dieu Saint, il y avait une chose merveilleuse. Il y avait ce chandelier. Et le chandelier était un chandelier de 7 branches. Il y avait un tronc et il y avait 7 branches. Et il était en or battu. Et ça veut dire quoi? Il n'y avait que de l'or. Il n'était pas très grand, ce chandelier, probablement, parce qu'il devait être horriblement lourd. Il n'y avait rien comme ça. Hein. L'or a une densité énorme. Mais il était en or battu. Ce qui veut dire qu'il était d'une pièce, que de l'or, et qu'il était martelé. Complètement martelé d'un bout à l'autre. Donc c'était une œuvre d'art, cette chose. C'était comme si vous voulez, Ève a été formée de la côte d'Adam. Donc c'était pas une création en pièces détachées, c'était formé de la même matière. Et toutes les branches et toutes les grenades et toutes les fleurs qui étaient sur ce chandelier, et le haut du chandelier, tout a été fait au marteau. Donc c'était en de l'or battu. C'était un objet extraordinairement précieux. Et ce chandelier, on le voit au travers des âges. Et on le retrouve, vous savez où? Sur l'arc de triomphe de Titus à Rome. Il y a un bas-relief là où on voit des soldats romains qui dévalisent le temple et il y en a un qui tient le chandelier. C'est extraordinaire, hein? Et on voit la proportion de ce chandelier par rapport à un homme. C'est à peu près de cette grandeur. Mais il devait peser énormément, ce chandelier. Et nous voyons que ce chandelier donnait de la lumière dans les ténèbres du tabernacle, parce qu'il faisait nuit noire là-dedans. Et alors il y avait une huile spéciale, de l'huile d'olive pressée, qui se mettait dans ce chandelier et qui était allumée. Et il y avait des instruments pour entretenir ce chandelier, qu'on appelait des mouchettes, c'est-à-dire pour couper la mèche au fur et à mesure qu'elle se consumait. Et puis, il fallait que ce chandelier brûle nuit et jour. C'était une flamme qui ne s'éteignait pas. Et on voit déjà au début du livre de Moïse, de Samuel, que le jeune prophète aidait Élie, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur, dans tout ce qui devait être fait dans le tabernacle. Et certainement, lui aussi a été commissionné à aller chercher de l'huile pour ce chandelier. Il devait y en avoir toujours une assez grande réserve. Parce que la saison des olives n'est pas toute l'année. Et en plus de ça, on n'a pas toujours des olives dans le désert. Hein. Il fallait trouver où on pouvait acheter de l'huile. Il y a certainement des caravanes qui en amenaient. Alors c'est là que les prêtres ont dû en acheter, ou disons les lévites ont dû en acheter, pour que le feu, les flammes sur le chandelier continuent toujours. Maintenant, le chandelier nous fait parler de quelque chose, nous fait penser à quelque chose. À quoi ça vous fait penser, ce chandelier? Les sept esprits de Dieu sur les églises, oui. Ça, c'est bien pour le tabernacle céleste, mais non, d'église. Et puis, il y a aussi en nous, en tant que tabernacle, notre corps. Qu'est-ce que c'est le chandelier? La lampe du cœur. La lampe du cœur, c'est quoi? C'est l'œil, c'est les yeux, c'est les yeux. Le chandelier, c'est les yeux. Et nos yeux parlent de l'espérance qui est en nous. Ils parlent de la joie de Christ, de la présence de Christ en nous. Il nous donne tout un message, il donne tout un message à ceux qui nous voient et à ceux qui sont autour de nous. Donc si notre cœur est simple, notre œil est rempli de lumière, n'est-ce pas? Alors, travaillons à ça. N'oublions pas que notre cœur se reflète sur nos yeux. Et sachons être heureux dans le Seigneur, même si les choses sont difficiles. Eh bien, on a parlé des sept lampes, n'est-ce pas? les sept lampes du témoignage que nous voyons dans Apocalypse chapitre 2 et 3, qui c'est sept églises. Mais qu'est-ce qui se promène de votre chandelier continuellement et qui l'entretient, ce chandelier spirituel? C'est le Seigneur, n'est-ce pas, dans Apocalypse 1, nous voyons sa description. Il est dit, il marche au milieu des lumières. Il est là devant et il entretient lui-même son Église. N'est-ce pas précieux de savoir que c'est lui qui entretient son Église? Et quand il y a tout un, quand il y a un fumant, il semblerait que la lampe va s'éteindre, eh bien c'est lui encore qui remet l'huile. Et il y a des églises dans ces sept, on se dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait de l'huile encore là-dedans? Comment est-ce possible avec tout ce qui se mélange dans cette église, comment est-ce que le témoignage pourrait toujours être là? Eh bien, c'est là où il y a la grâce. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit, et la grâce, c'est que le Seigneur, il est là au milieu des chandeliers. Et il dit six fois, à celui qui vaincra, je lui donnerai quelque chose. N'est-ce pas? Donc, être dans l'église, ce n'est pas une petite affaire. Il y a une guerre. Il y a une bataille. Et nous ne pouvons pas aller à l'église ou dans une église locale, croyant qu'il n'y aura pas de bataille. Que ce sera la paix, que ce sera merveilleux, que tout ira bien. Dans toutes les églises, il y aura des batailles. Dans toutes les églises. Parce que l'église est mise dans les tranchées. C'est là où elle est. Elle n'est pas dans un château fort. Elle est dans les tranchées. C'est l'église persécutée qui s'est vue pendant très longtemps dans les châteaux forts. Disons, mentalement. Et qui devait se défendre, qui devait se tenir les coudes, et puis qui voyait l'extérieur comme étant les ennemis, faisant un assaut. Mais l'Église n'a jamais été dans cette position. Elle a toujours été dans la position d'attaque. Et quand une Église est dans une position de défense, elle ne fait pas ce à quoi elle est appelée. Elle doit être dans une position d'attaque. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, souvenez-vous de cela, l'Église est faite pour évangéliser. Si votre congrégation ne grandit pas, c'est qu'elle n'évangélise pas. Et l'évangélisation, ce n'est pas des campagnes d'évangélisation. L'évangélisation, c'est du 1 à 1. C'est servir son prochain. Jusqu'à ce qu'on ait le privilège, l'invitation de pouvoir lui dire, lui donner l'évangile, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il nous faut avoir des connaissances qui ne sont pas croyantes. Je me rappelle, quand j'étais petit, on me disait, oh, faut surtout pas faire, dire quoi que ce soit à qui que ce soit qui n'est pas comme nous, de notre milieu. Parce que ça vous allez être influencé. Et puis, on regardait tous les gens un peu comme des martiens, quoi. On avait peur. On avait horriblement peur des autres. Et on nous avait tellement inculqué qu'on était dans la vérité et que tous les autres étaient dans le mensonge, qu'on avait peur. Et il m'a fallu des années pour pouvoir parler à une personne comme humain, de humain à humain. Et je me suis rendu compte que ces non-croyants avaient bien plus de grâce que moi, et qu'ils étaient bien plus gentils que moi, qu'ils avaient bien plus de sensibilité que moi. Et pourtant, j'avais le salut, j'avais tout, mais j'avais aucune idée de qui étaient ces gens. Et alors, il ne faut pas avoir peur de personnes qui ne sont pas croyantes. Au contraire, il faut aller vers elles. Mais ce que nous ne voulons pas faire, c'est avoir des liaisons avec des personnes qui ne sont pas croyantes. Parce qu'on ne peut pas se mettre sous le même joug, n'est-ce pas? Un joug, se mettre sous le même joug, c'est s'associer. Et nous ne voulons pas nous associer avec des personnes qui sont dans le monde, ou qui ne sont pas chrétiennes, ou qui ne sont pas des chrétiens prouvés, éprouvés. Parce que quand on est sous le même joug avec des chrétiens, on doit tirer dans la même direction. Et des fois, la direction où ils veulent aller, c'est pas la même que la nôtre. N'est-ce pas? Alors, faisons attention. Et dans ces jougs, qu'est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle du mariage. Hein, voilà. D'autres, c'est peut-être une association commerciale. D'autres, c'est peut-être même une association d'église. Et il y a peut-être des jougs sur lesquels on devrait se mettre, puis on ne se met pas. On pourrait faire beaucoup plus de travail si on pouvait s'atteler ensemble à certaines choses. Et puis on ne le fait pas. Alors, il y a là toute une énergie et toutes des opportunités perdues. Eh bien, le chandelier, voyons voir. On pose des questions là. L'huile. Trouvez d'autres passages et le renseignement sur les lampes à l'huile. On en a parlé. Apocalypse 2 et 3. Que typifie l'huile dans la parole? On a dit c'est le Saint-Esprit. La lumière. Trouvez d'autres passages sur la lumière quant à l'Église sur la terre et dans les cieux. Tu peux me dire ça de mémoire. Vous êtes la lumière du monde. Hein, la lumière qui est la lampe qui est mise sur le pied de lampe. Elle ne se met pas sur le boisseau, bien sûr. Ensuite, quelle est la récompense de ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu? Daniel 12. Je vais vous lire ce verset. C'est un verset qui est pour moi un de mes buts. Pas pour moi-même, mais pour le Seigneur. Daniel 12, verset 3. Je dirais au verset 2, commencez pour le contexte. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et ça, c'est, disons, le verset qui me motive bien souvent pour continuer dans mon ministère. J'aimerais que vous trouviez un verset pour vous aussi dans la parole qui vous motive dans votre ministère. Demandez au Seigneur qu'il vous le donne, celui qu'il a approuvé. Rappelez-vous, vous êtes la lumière du monde. Chacun d'entre vous, vous êtes lumière. Mais vous pouvez placer votre lumière sous le boisseau, vous pouvez placer sous le pied de l'autre. Ça, c'est votre décision, votre choix. Bien, continuons. Pensez à sept domaines. Pensez à des exemples bibliques, Ancien et Nouveau Testament. De ceux qui ont accompli l'œuvre de Dieu. Que voyons-nous dans l'Ancien Testament d'hommes qui ont accompli l'œuvre de Dieu? Pardon? Oui. Moïse. Voilà, qui a fini. Qui a vraiment fini son travail. David aussi, oui. Abraham, Josué, il avait une tâche à faire, oui. Abraham, il est devenu père d'une grande nation, le père de la foi. Noé, il a fait son âge, oui, c'est sûr. Daniel, certainement de sa fidélité et de sa sagesse, un homme assez incroyable.
Joseph,
il a été dans sa sagesse, n'est-ce pas, dans la sagesse, l'exemple de sagesse et de fidélité. Esaïe, dans sa prophétie, oui, certainement. Jérémie, oui, jusqu'à la fin, il a tenu en fidélité. Je pense à Néhémie, n'est-ce pas, avec le projet du mur, de la reconstruction. Du mur de Jérusalem. Je pense à Esdras, et Zorobabel, ces deux hommes qui ont ramené le peuple à Jérusalem et pour reconstruire le temple. Et voilà, il y en aurait d'autres. Il y aurait des femmes aussi. Ruth, pensons à Ruth. Voilà une femme qui a été fidèle. Vous savez combien de temps le livre de Ruth dure dans l'espace du temps? Pas même deux mois. Pas même deux mois. C'est quelque chose de merveilleux quand on échange. L'histoire commence, et deux mois plus tard, il finit. C'est une histoire qui est une des plus belles de la Bible. Pensons à Esther. Voilà une femme qui était fidèle, courageuse, exemple de courage. Et vous pouvez continuer et trouver des exemples d'hommes et de femmes et voir quel est le caractère qu'ils ont typifié par leur vie et par leur témoignage. Mais nous pensons à des hommes et des femmes du Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous avons? Paul, oui, l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, c'est l'exemple du combattant. Hein? Et puis Pierre, quel exemple c'est pour lui, pour nous? Oui, Étienne, le courage, grand témoignage. Oui, Marie, la mère de Jésus, et très certainement. Jean-Baptiste, jusqu'au bout. Barnabas, le père de l'encouragement. Oui. Élisabeth. On a parlé, oui, Paul, pardon, Timothée aussi, qui était fidèle dans son poste, alors qu'il se semblait tellement faible, il était tellement inadéquat à sa vue, et pourtant c'était un homme de sa vie, un introvert. Si vous avez la tendance à être introverti, eh bien Timothée, ça, les deux épîtres de Timothée sont pour vous. Parce que ceux qui ont peur des autres et du défi, eh bien, les épîtres de Timothée sont pour vous. Pénétrez-vous de ces épîtres. Ça vous encouragera. Parce que Timothée avait peur, il était jeune. Et puis c'était l'église de Pêche, c'était pas une petite église, attention. Hein. C'était un peu comme la grande église de la rive du Sud. Hein. Et puis, la rive Sud. Et puis, il y avait beaucoup de monde dans cette église. Il y avait des gens, il y avait des juifs convertis qui étaient solides dans la théologie. Et puis, il y avait toutes sortes d'idées, il y a toutes sortes de débats, et toutes sortes de titres, de groupes, etc. Et Paul envoie Timothée dans cette église. C'était pas une chose facile. Hein. Et la seule arme qu'il avait, c'était quoi? La seule arme qu'il avait parmi tous ces gens. Qu'est-ce qui allait lui donner l'autorité dans cette église? Non, pas la parole, mais l'enseignement. Non, il y avait une qualité de caractère qui allait lui donner l'autorité sur tous ces gens.
Pas l'esprit de peur.
Oui, il avait la peur. Alors là, la peur, il l'avait. La peur, il l'avait. Non. C'est ce qu'on appelle la piété. La piété. C'est la piété. Et être engagé dans le Christ et dans tout ce qu'il concerne, la piété, c'est cette discipline intérieure de celui qui connaît Dieu et qui attendra sur son Dieu jusqu'au bout. Et ça, il n'y a pas une force pareille que celle-là. La piété, c'est un vieux mot, et vous regardez à toutes les définitions, dans le dictionnaire et ailleurs, mais la piété est une des forces les plus énormes qu'on puisse y avoir. Un jeune homme, une jeune fille pieuse dans l'assemblée, elle a plus d'autorité que n'importe qui. Rien que par son attitude. Sans dire un mot. Et je connais des comme ça. Plusieurs. Les hommes et les femmes de prière. La piété, c'était Daniel. Vous savez, si tu es pieux, il attend que l'Éternel amène les choses. Il ne va pas aller chercher les travaux. Il attend que le Seigneur les présente. Et puis après, il pose la question, c'est vraiment ça que tu veux que je fasse. Et il prie. Et après, il fait son petit boulot. Il ne dit pas grand-chose. C'est fait. Et après, il continue dans la prière et dans la méditation avec l'Éternel. Et c'est un homme de relation. Si c'est la piété, il a la relation. J'avais un oncle qui était pieux. Et c'était pas un homme qui allait quelque part. Il n'allait pas dans les conférences. Il n'allait pas dans les choses. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Et sa vie, c'était une ligne droite. C'était le genre d'homme vers qui on venait. Parce qu'il avait tellement de sagesse. Alors on lui présentait nos problèmes. Et je me rappelle, c'était un fumeur de pipe. C'était son seul défaut. Il fumait la pipe. Alors bon, il nous écoutait et puis il fumait cette pipe et puis elle s'éteignait, il fallait la rallumer, puis elle s'éteignait, il fallait la rallumer, puis elle s'éteignait, il fallait la rallumer. Puis pendant ce temps, il priait et puis je sentais bien qu'il cherchait ce qu'il fallait dire. Et puis après, il disait une phrase et c'était la réponse. Pas besoin d'une monnaie. Et ça, c'était ça. Aucune discussion. Rien. Il cherchait de Dieu ce qu'il fallait dire. Et s'il n'y avait rien à dire, il disait, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Et on avait notre réponse.
Pour toi,
bien sûr. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais la piété, c'est le chant de Dieu.
Et comment on peut y aller dans nos assemblées?
C'est ceux qui ne disent rien. Ceux qui restent tranquilles, ceux qui viennent tôt à l'assemblée pour prier avant le Dieu, ceux qui sont là partout où il y a un travail caché mais efficace, c'est là où on les trouve. L'autel des parfums, c'est la septième leçon. On va passer à l'autel des parfums pour faire trop long. L'autel des parfums, il se trouvait au milieu du lieu saint. Quand on entrait, on voyait au fond l'autel des parfums. Donc à droite, la table des pains de témoignage, à gauche, le chandelier et au fond l'autel des parfums. L'autel des parfums était une boîte, si vous voulez, qui avait un mètre de haut et puis 50 cm de côté. C'était assez petit, mais c'était des caisses qui étaient lourdes parce qu'elles étaient complètement plaquées d'or. Et l'or est très lourd. Alors l'autel des parfums était là. Et c'était, il y avait un encens qu'on brûlait là. sur cet autel de les parfums, il y avait une formule sacrée. Il n'y avait pas d'autre encens qui était formulé la même chose. On ne pouvait pas vendre cet encens. On ne pouvait pas le commercialiser. C'était une formule sacrée pour l'Éternel. Et cette formule, elle était faite par les Lévites. Et la formule se passait de génération en génération en génération, mais c'était un secret lévitique. Personne ne savait ce que c'était. Elle était pour l'Éternel. Et cela nous parle de nos affections, de notre cœur. Il y a une place dans notre cœur qui est que pour lui. Et j'espère que c'est pour vous ça, la même chose. Il y a une place qui est que pour lui et pour personne d'autre. On voit dans la parole de Dieu que le roi Ozias était un roi qui vraiment suivait l'Éternel. Il avait à cœur l'Éternel. Et il avait tellement à cœur le service qu'il aurait voulu être un prêtre. Mais c'est un homme de Juda et non pas à Lévite. Et pourtant, un jour, il a pris les devants et il est allé offrir ce parfum dans le tabernacle. C'est une chose dans le tabernacle. Et Dieu l'a frappé de la lèpre. Et il est mort. Ça ne veut pas dire qu'il est condamné. Mais ça veut dire que le Seigneur ne pouvait pas ne pas montrer son autorité vis-à-vis des choses sacrées. Et il y a aussi un problème avec Finé, si vous vous rappelez. L'exemple de Finé, qui avait aussi violé la parole de l'Éternel et offert un feu étranger. Vous vous rappelez l'histoire du feu étranger? Eh bien, c'était aussi là, sur l'autel des parfums. Quelles sont les conditions du sacerdoce chrétien pour que l'encens de nos prières soit acceptable devant Dieu? Exactement. Un cœur sincère et immature. C'est juste. Alors, un cœur sincère ne peut s'obtenir à moins que nous soyons d'abord nous fassions la paix avec ceux qui sont autour de nous, c'est-à-dire que nous demandions pardon à ceux que nous avons offensés et que nous pardonnions à ceux que nous avons offensés. À ce moment-là, nous avons un cœur sincère. Souvenez-vous de ce que Jésus disait, s'il se souvient que tu as quelque chose contre ton frère, laisse-la ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, et puis ensuite viens et fais ce sacrifice, n'est-ce pas? Eh bien, ça c'est la condition du sacerdoce chrétien. C'est que notre cœur soit sans offense contre quelqu'un ou envers quelqu'un, ou de quelqu'un envers nous. Ensuite, autre chose, il faut que, comme on l'a dit, les mains pures, eh bien, c'est que nous ayons renoncé aux choses des ténèbres. Ensuite, l'autel des parfums, on voit que c'est une préfiguration du trône de la grâce. C'est là où nous pénétrons dans le tabernacle céleste avec nos prières et avec notre adoration. Il n'y a pas un autel, on n'a plus besoin d'autel, puisque le Seigneur est dans le tabernacle, c'est lui notre souverain sacrificateur. Mais nous pénétrons là, vers le voile, et nous apportons le voile déchiré, et nous apportons nos offrandes, et aussi nos requêtes, comme il est dit dans les Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Il y avait aussi quatre cornes au coin supérieur de l'autel. Alors quel est, disons, le symbole de ces quatre cornes? Eh bien, c'est un symbole de force, un symbole de puissance. Voilà ce que ça veut dire. C'est que l'adoration nous défend contre les puissances des ténèbres, tout alentour. Satan ne peut rien faire contre un peuple qui adore Dieu. Savez-vous ça? Il ne peut rien faire contre un peuple qui adore Dieu, à moins qu'on nous donne la permission. Mais il y a là une déclaration de victoire qui est extrêmement puissante. Alors, pensons à des exemples de médiation dans la parole de Dieu où le Seigneur a donné la réconciliation. Vous voyez ce que je veux dire? Des exemples de médiation dans lesquels le Seigneur a donné la réconciliation. Il y avait une dispute et Dieu, le Seigneur a donné à ces gens de se remettre ensemble pour qu'ils puissent avoir unité. Pas tellement, non, mais pas bien loin de cette histoire, il y a eu. Les deux.
Il y a Paul, les héritiers,
vous suivez les. Oui, il y a une réconciliation là, c'est-à-dire une unité de but qu'il fallait remettre en place. sur ça l'Église, elle était divisée. Autre chose, dans l'Ancien Testament, je pense à un qui est très, très courant. Oui, c'est Abraham et Lot, n'est-ce pas? Alors là, il y a eu de la médiation, c'est juste, il y a eu un plaidoyer, et il y a eu de la médiation, et la famille de Lot a pu être sauvée. Et puis, madame, je pense que vous pensiez à Joseph et à ses frères. Voilà un exemple de médiation qui est fort, qui est un des plus beaux. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres dans la parole de Dieu, où on voit le Seigneur agir au travers d'hommes et de femmes pour la réconciliation.
Ésaü, Jacob, quand Jacob a rencontré Ésaü.
Oui, oh, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais je pense à Esther. Voilà un exemple de médiation assez extraordinaire. Hein? Pensez à des exemples où des personnes sont venues devant le Seigneur pour que justice soit faite.
La femme avec le bébé.
Mais il est toujours Salomon. Mais maintenant, des hommes sont venus devant le Seigneur pour que justice soit faite. Donc on fait appel au Seigneur pour que la justice soit faite. Dans un sens, oui, c'est juste. David et Goliath, ils étaient fâchés parce que Goliath était en train d'outrager le Seigneur, non pas les troupes d'Israël, mais le Seigneur de l'Éternel, des armées. Et il a fait appel à l'Éternel dans ce sens-là, que la justice soit faite.
Le prophète Daniel.
Le prophète Daniel. De quel sens?
Dans un sens de...
La fosse au lion. Oui, probablement dans ses prières. Il se confie en l'Éternel pour que la justice de Dieu éclate. Seulement, il n'avait pas tout à fait l'idée qu'il avait passé par la fosse au lion. Oui, oui. Il n'y a pas eu, disons, une demande, mais la justice a été faite. Mais je pense à une demande que la justice soit faite. C'est le peuple fidèle à Dieu pendant la tribulation qui demandera à Dieu d'arrêter ses jours, de limiter ses jours. Vous connaissez le verset? Je me reprends. C'est les saints dans le ciel qui vont demander à Dieu de limiter ses jours pour, à cause des souffrances qui se passent sur la terre. Dans le ciel. Oui, oui, mais ils sont quand même conscients de ce qui se passe.
C'est le moment de silence avant la...
Je ne sais pas exactement où ça se passe, mais je sais qu'il y a un plaidoyer qui se fait pour que ces temps soient écourtés. Ensuite...
Il dit jusqu'à quand elle est sur le...
Voilà, jusqu'à quand, oui. Maintenant, on parle de prière. Puisqu'on est dans l'hôtel des parfums. Les parfums, disons, l'autel de parfums est le type de nos prières, et disons l'exemple de nos prières. Quand vous allez à la réunion de prière, le mercredi ou le mardi ou le dimanche, je ne sais pas quand vous avez votre réunion de prière, mais c'est exactement ça que vous faites. Vous allez dans le lieu saint et vous allez offrir le parfum à Dieu sur l'autel, et vous allez prier. Et malheureusement, il y a peu de chrétiens qui viennent à cette réunion. Et au fond, ça devrait être la réunion la plus visitée. Parce que c'est celle qui est la plus puissante. Et on voit dans l'Église, du début, ça commençait par la doctrine des apôtres, ensuite la communion, la fraction du pain, et enfin les prières. N'est-ce pas? Tout était lié. C'est là la progression, si vous voulez, normale dans le tabernacle, ou dans l'adoration. Les prières, c'est le moment le plus élevé de la semaine. Dans le sens de notre communion avec Dieu. C'est le moment le plus élevé de la semaine. Il dit, et puis la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est si vous voulez le symbole de Jésus qui vient vers nous, dans le pain et dans le vin. Mais pour nous, la prière, c'est lorsque nous allons dans le ciel. C'est bien plus élevé. Alors, je crois que nous aurions avantage à comprendre ce que c'est que la prière, parce que ça nous motiverait à prier. Et la prière, c'est la puissance même qui présente des recours à Dieu pour lui, pour sa gloire, pour que lui ait avantage. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un plaidoyer vis-à-vis de Dieu pour que lui soit glorifié dans le monde. Par exemple, quand nous avons le séminaire vie chrétienne, nous organisons ce séminaire une année avant que ça ait lieu. Et il y a différents comités qu'il faut organiser selon un plan qui est très précis. Mais le premier comité qu'on organise, c'est le comité de la prière. Et c'est le plus gros comité de tout le séminaire. Et ces gens qui sont de tout le territoire où il y aura le séminaire, eh bien, ils se rassemblent par groupe. Au début, c'est une fois toutes les deux semaines. Puis après, c'est une fois toutes les semaines. Et si ces groupes sont fidèles, peu à peu, on voit un momentum qui se développe, et quand le séminaire commence, si la prière a été faite correctement, aux 5 minutes, le Saint-Esprit remplit cette salle. Et je ne peux pas vous dire comment je le sais, mais je le sens. Il est là. Et le travail commence tout de suite. Et on sait pourquoi ils rentrent dans la salle, parce qu'il y a des grosses batailles, toute la semaine. Et autour de jeudi, les victoires commencent à marcher. Et les gens sont déliés. Et il y a tellement de bénédictions. C'est rare que nous n'avons pas entre 5 et 10% de personnes qui se convertissent dans les séminaires. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au clair avec leur salut. Qui n'ont pas de fondement vraiment pour leur salut. Ou qui, comme je vous ai dit au début de cette semaine, ça va très long, il y a très longtemps, mais ils n'ont jamais pris vraiment une décision claire. Ils n'ont pas vraiment compris ce que c'est. Et puis finalement, quand on explique, ils se rendent compte, oui, il me semblait que j'étais un bon chrétien ou que j'étais une bonne personne, mais c'est à peu près tout ce que je suis. Je suis vraiment pas un chrétien. Je n'ai jamais compris ce que c'est que le salut. Et alors, là, ils le comprennent et ils deviennent chrétiens. Et ils font un bon départ parce qu'il y a beaucoup de bonnes instructions. Bien. On parle maintenant du parfum. C'était une formule secrète, comme on a dit. Comment pouvons-nous appliquer l'idée de cette formule secrète dans notre tabernacle, dans notre corps, comme aussi dans l'église locale? On a juste touché ça il y a 1 ou 2 minutes. Une formule secrète fait penser à quelque chose d'intime, hein, qu'on partage avec personne. Voilà. C'est quand on prie dans l'intimité. Il y a des choses entre Dieu et vous qui sont uniques, à qui vous ne parlez à personne d'autre qu'à lui. Et ça, cette formule secrète est très importante. Que pensez alors de prière liturgique en comparaison de prière articulée selon nos pensées et nos réflexions? Qu'est-ce qui fait la différence entre les prières répondues et celles qui ne le sont pas? Voilà deux questions. Parlons des prières liturgiques et des prières que nous formulons dans notre tête, ou dans notre âme, ou notre cœur. Quelle est la différence entre la prière liturgique et celle qui ne l'est pas? Les prières liturgiques sont les prières que l'Église nous a transmises, les prières écrites. Il y a beaucoup de prières liturgiques qui ont été écrites, des très belles prières en nos sens. Oui, Notre Père, ça c'est la prière dominicale. Mais les prières liturgiques, il y en a des livres comme ça. Oui. Et c'est très beau, il y a des très belles prières là-dedans.
Ça peut devenir difficile.
Si on les utilise tout le temps, ouais.
C'est-à-dire qu'on peut les réciter dans le groupe, mais si la cœur n'y est pas, on peut se demander pourquoi parfois on n'a pas de réponse.
Je vais vous choquer, mais il y a des prières liturgiques qui sont excellentes. Pour moi, de lire une bonne liturgie de l'Église réformée ou de l'Église anglicane, il y a là des prières qui enrichissent qui m'aident à verbaliser mes prières personnelles. Et moi, ce qui me chicane un petit peu avec les chrétiens évangéliques, c'est le fait qu'ils expriment un peu n'importe quoi et n'importe comment. Et s'ils étaient devant le président du Canada, le premier ministre du Canada, jamais ils s'exprimeraient comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait ça aurait une autre allure.
Oui. Votre aspect, je pense qu'il est d'accord avec ça. Bien sûr que pour le chrétien qui emploie tout le vocabulaire de la parole, il peut se sentir lui avec le mot juste, la gloire, mm-hmm. et tout ça. Mais si on le dit devant le monde, la personne n'a aucun sens des mots, du vocabulaire qu'il n'a pas, il ne sait même pas de quoi. C'est là qu'on dit, c'est pas lui dans les cieux, il est cette terre, je ne sais pas quel mot qu'il envoie. Mm-hmm. Pas les mots qui sont connus pour
eux. Ça, c'est autre chose. La question des mots, ça, c'est une question de, disons, de culture.
Parce que notre vocabulaire vient de, comme vous dites, on est inspiré par les mots, la gloire,
par la parole. Ouais.
Par la parole.
La gloire. Qu'est-ce que la gloire? Il y a au moins 5 définitions pour la gloire. Et on utilise la gloire à toutes les sauces. Alors, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'ensemble de ses caractères. N'est-ce pas? C'est ça. Oui.
Vous voulez dire que les paroles démontrent une révérence envers Dieu?
Oui. Les paroles démontrent une, non seulement une révérence, mais aussi une pensée précise de Dieu.
Mm-hmm.
Et c'est important de pouvoir verbaliser avec précision devant Dieu et devant les hommes, qui est Dieu pour nous, qui existe pour nous, qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'on veut de lui, et qu'est-ce qu'on veut lui offrir. N'est-ce pas, d'une manière claire. Parce qu'on utilise des grands mots, par exemple, nous te louons Dieu parce que tu es amour. Bon ben, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire, voyez-vous? Il faut entrer dans les choses, aller dans le détail, aller dans le fond. Et c'est là où, disons, si pour ceux qui veulent avancer avec le Seigneur, prenez un livre de liturgie à la bibliothèque municipale, vous en trouverez. Et il y a des très belles prières là. Il faut faire son choix. Hein. Elles ne sont pas toutes bien, mais il y en a des très belles. Et
ça
va, ouais, tu n'as pas besoin de dépenser l'argent. On va chercher la bibliothèque. C'est gratuit. Et vraiment, ça vaut la peine de lire. Et des fois, vous arrivez sur un livre, puis vous dites, oh, je crois qu'il est bien. Puis vous le lisez, puis, je ne sais pas, 15 minutes plus tard, 20 minutes plus tard, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le genre de prière que vous cherchez. Bon, il ne faut pas s'offenser. On le met dans la bibliothèque, on va chercher un autre. Mais il y a des livres qui ont quand même une liturgie qui est belle. Et la liturgie, c'était, l'idée de la liturgie, c'était quand il y avait énormément d'églises, n'est-ce pas? Et que c'était difficile de faire passer l'enseignement d'une manière correcte à tout le monde. La liturgie précisait les pensées de chacun dans la même direction. Mais alors, c'est devenu, comme vous dites, un danger. C'est-à-dire que ça devenait répétitif, et finalement, les gens savaient leur prière, mais leur tête était ailleurs.
Mm-hmm.
Voyez-vous? Mais si ces mots sont là pour nous inspirer à prier du fond de notre cœur d'une meilleure manière, alors là, la liturgie a rempli son rôle, n'est-ce pas? La liturgie n'est pas un niveau supérieur à nos prières personnelles, du tout. C'est simplement un modèle, si vous voulez, un modèle de prière. Ensuite, je vous recommande d'écrire vos prières. Oui.
Pour appuyer ce point-là,
oui.
J'ai un exemple précis qui me vient à l'esprit, c'est mon père. Mon père est quoi, une troisième année, c'est pas historique. Mais il se nourrissait de la parole quand il faisait des prières. J'ai jamais entendu les mots dont vous dites là, dans les doxologies ou dans les liturgies, ils les sortaient.
Oui.
Et ça passait à travers dans son esprit, dans son cœur, et
ça ressortait.
Il n'y avait pas d'éducation.
Et le principe est tout à fait correct, parce que vous verrez beaucoup, beaucoup de versets dans la liturgie. Énormément de versets. Énormément de principes doctrinaux qui sont dans la liturgie. On va parler encore peut-être 5 minutes de ça, parce que c'est tellement important. Comme vous avez mentionné, de répéter à Dieu sa parole dans la prière, de reformuler la parole dans sa prière, c'est une des formes les plus hautes de la prière qu'on puisse avoir. Et je vous encourage pour ça de mémoriser la parole afin que vous puissiez la ressortir sous forme de prière dans vos prières. Et ça, des prières riches sont des prières qui s'appuient sur la parole et qui peuvent redonner à Dieu le verset. N'est-ce pas? Aussi, je vous encourage à écrire vos prières. Comment est-ce qu'on prie avec précision? Quand on les a écrites, soi-même, écrivez 30 ou 40 prières dans différentes catégories. Et puis après, vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette prière pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'il devrait répondre à cette prière? Et si je prie pour quelqu'un en particulier, je commence à écrire cette prière, je peux me poser la question, puis je peux me dire, avant de la prier, je peux me dire, pourquoi est-ce que Dieu devrait la répondre? N'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment la chose qu'il faut demander à Dieu? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut que je lui demande? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Et bien souvent, on est là devant le brouillard. Et cela amène une nouvelle prière. Seigneur, enseigne-moi à prier. N'est-ce pas? Et cela est toujours juste. Et Dieu va vous révéler peu à peu comment prier. Mais c'est un travail. La prière, c'est un don, c'est un travail. C'est un ministère, la prière. Faut pas s'illusionner. Et par exemple, pour celui ou celle qui ne se sent pas dans une position d'évangéliser ou de partager avec des autres, eh bien, la prière, c'est très certainement un ministère très, très utile. Vous savez qui ont la plus grande puissance dans la prière, parmi les, dans la société humaine?
Les enfants? Les femmes, J'avais lu une anecdote sur les madames en Russie qui priaient tout le temps pour. Je pense qu'un pasteur américain avait dit, mais je pense que ces vieilles dames-là, on n'entend pas.
C'est les veuves.
Les veuves.
Les veuves ont un statut spécial dans la société. Et le Seigneur ne peut, leur refuse pratiquement rien. Ça fait que vous avez un ministère, mobilisez les veuves. Oh, puis. Prenez, faites la recherche dans la parole de Dieu sur les veuves. C'est incroyable, mais la puissance de la prière des veuves et la protection des veuves. Le Seigneur lui-même dit, moi je suis le protecteur de la veuve et de l'orphelin. Ça, ce sont des gens qui ont le plus de puissance de prière. Ça fait mobiliser ces gens pour pouvoir prier. Parce que ce sont ceux qui ont accès à Dieu.
Bien.
Qu'est-ce qui fait la différence entre les prières répondues et celles qui ne sont pas?
C'est les livres qui ont été écrits là-dessus.
Mais je crois qu'il y a une grande différence. C'est l'apôtre Jacques nous en parle. Les prières dans lesquelles nous voulons des choses pour nous-mêmes ne sont en général pas répondues. N'est-ce pas? Mais les prières qui sont dans l'intérêt de Dieu, eh bien, Dieu nous donne, en plus de ce que nous désirons pour lui, dans son intérêt, il nous donnera en plus. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus.
Comme la prière de Salomon.
Voilà.
Voilà.
La sagesse. Et un cœur qui écoute. Cœur, il a tout eu. Il a trop eu. Il a mal géré ce qu'il avait. Mais enfin, bon. On peut dire des choses sur Salomon. Mais enfin, voilà. Je voulais vous laisser avec ces quelques réflexions sur l'autel des parfums. C'était, si vous voulez, la chose qui était contre le voile, c'était ce qui était le plus près de l'arche de l'Alliance. N'est-ce pas? Le plus près. Alors, on va résumer. Pour le prêtre qui arrivait au travail le matin, par où est-ce qu'il passait? Il passait par la porte du parvis. Et il entrait là, et qu'est-ce qu'il y avait là devant lui? Droit devant lui, à la porte. Il y avait. Il ne peut même pas voir le tabernacle. Il y avait l'autel des holocaustes. C'était la première chose qu'il voyait. Il fallait qu'il tourne autour de l'autel des holocaustes. Et puis il y avait le chiffre du matin qui était venu plus tôt pour le sacrifice à perpétuité. Hein. Donc ça commençait déjà à fumer dès le lever du soleil. Et puis il tournait cet autel, et derrière, qu'est-ce qu'il trouvait? La cuve, n'est-ce pas? La cuve d'airain, cet immense bassin. Et alors là, suivant son service qu'il devait faire, eh bien, il devait se laver des pieds à la tête. Et il y avait vraiment tous les collègues qui étaient là, et ils se mettaient en ligne, et puis les uns après les autres, ils allaient se laver complètement des pieds à la tête. Et puis, ils commençaient leur travail. Alors, il y en avait qui changeaient l'eau de la cuve, il y en a qui nettoyaient, il y en avait qui s'occupait des animaux, il y avait beaucoup de chrétiens à faire autour de ce tabernacle. Et alors, tous ces prêtres étaient là et s'occupaient toute la journée. Maintenant, il y en avait un qui sacrifiait, ou faisait plusieurs, qui sacrifiaient pour le peuple, soit des sacrifices pour le péché, etc. Et il y en avait certains sacrifices, nous verrons l'année prochaine, par la grâce de Dieu, où le sang était amené à l'intérieur sur les cornes, n'est-ce pas? Et sur les cornes de l'autel, puis après, le sang était amené aussi dans le lieu très saint, une fois par année, n'est-ce pas? Et il y avait aussi des offrandes d'encens, il y avait toutes sortes de choses. Et il y avait aussi des plaidoyers dans lesquels le prêtre entrait dans le tabernacle et dans le lieu saint, n'allait pas au-delà de ça, avec le sang et l'offre à l'Éternel, et puis après il sortait avec le sang et c'était disposé. Mais il y avait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça, une immense activité. Et pour l'Israélite, qu'est-ce qu'il voyait, lui? Il voyait quoi? Il voyait le parvis, d'abord. Puis en dessous du parvis, il voyait quoi? Il voyait peut-être juste le haut du tabernacle, s'il était bien gros. Et puis s'il était petit, il voyait que le parvis. Mais qu'est-ce qu'il voyait au-dessus du tabernacle? Il voyait la colonne de fumée et de feu, n'est-ce pas? Donc au fond, il avait la vue de Dieu, si vous voulez. Il voyait le Seigneur. Il n'était pas dérangé par tout ce qui était dedans. N'est-ce pas? Et pour nous, c'est une image merveilleuse. Ne nous laissons pas déranger par les technicalités de millions de choses. Quand nous nous approchons de Dieu, sachons le voir, lui et sa gloire. N'est-ce pas? Alors, je vais vous laisser avec cette pensée. La fin de cette semaine, sachons le voir, lui et sa gloire. Et puis faire abstraction de toutes les autres choses qui sont incidentelles à ce qui est le principal. Oui. Où ça? Le tabernacle? Non, il était dehors. Le parvis n'était pas couvert, il était dehors. Oui.
L'hôtel des parfums,
c'est un hôtel d'encens, ça remplissait la maison d'encens, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bonne question. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Vous avez été un groupe extraordinaire. Maintenant, je voudrais juste vous dire, dans mon ministère, je suis disposé à venir sur invitation dans votre assemblée ou si vous êtes un groupe d'assemblée dans une région. Je n'aime pas venir pour boucher un trou dans un horaire. Voilà, il vous manque quelqu'un un dimanche pour parler le dimanche et puis venir seulement un dimanche pour une réunion. Parce que on n'avance pas, on avance peu. J'aime mieux que ce soit les frères locaux qui fassent ça. Personnellement, je trouve que c'est vraiment le rôle des frères locaux de prêcher le matin, le dimanche matin, de l'entretien, si vous voulez, de l'église, de ce plan spirituel. Mais si vous voulez faire, par exemple, une petite conférence, une mini-conférence, donner peut-être 6 heures de temps à la parole, je trouve que le nombre 6 est un bon nombre pour un week-end. On peut faire 3 heures samedi, 3 heures dimanche. Et c'est plus gérable. On peut par exemple faire, je vous suggère quelque chose, quand je fais un suivi pour le séminaire, on commence à 9 heures et on finit à 4 heures le samedi. Puis on a une heure pour manger. Ça, c'est un jour. Ou bien, on peut faire autre chose. On peut se rassembler à 5 heures, on mange le souper là, une espèce de souper où chacun apporte quelque chose. Et puis, après, ça nous laisse de 6 heures à 9 heures pour faire 3 heures d'avance dans la parole de Dieu. Et puis, le dimanche, on peut arranger aussi 3 heures quelque part avec peut-être un dîner à l'église, à l'assemblée. Ainsi, on a vraiment mis 6 heures de temps dans la parole et on a bien avancé. On peut aussi faire des programmes pour toute la famille, où les enfants sont impliqués. C'est pas du tout difficile de faire ces choses. Seulement, j'ai un petit peu besoin d'aide et je peux toujours trouver des personnes qui sont d'accord de m'aider, soit de l'église de Magog ou ailleurs, ou même chez vous. Mais c'est une chose à planifier correctement et puis à préparer. Mais je trouve que si on peut mettre sur un week-end, comme ça, une demi-douzaine d'heures dans la parole de Dieu, à ce moment-là, on a tous progressé, on a tous avancé dans la foi. Je dis que si c'est pour qu'une réunion de 40 minutes, j'ai perdu mon temps. Et vous achevez, j'ai perdu le vôtre aussi. Alors, voilà comment mon ministère fonctionne. Je sens que c'est un ministère de conférence et que disons, c'est la meilleure manière de pouvoir, un, vous connaître mieux, nous connaître les uns les autres et nous unir. Oui. Non, vous pouvez me demander le thème. Vous pouvez me demander un certain thème. Et si vraiment c'est trop étranger à moi, ben je vous dirai. C'est pas, par exemple, si vous me demandez quelles sont la signification de tous les yeux des bêtes d'Ézéchiel. Alors ça, c'est pas moi, je suis pas la personne pour ça. Tout à fait. Je peux parler de mariage, d'église, de famille, d'évangélisation, préparation à l'évangélisation, des tas de choses de cet ordre. Des conflits particuliers. S'il y a des conflits particuliers dans une région, ou disons, un conflit par exemple, c'est pourquoi est-ce que notre église ne semble pas pouvoir s'entendre avec les autres églises? C'est un conflit. Ça va? qu'on l'admette ou pas. Est-ce qu'il y a des questions encore? Mais je t'en prie, Luc. Que Dieu vous bénisse tous, on va prier. Seigneur Dieu, nous te louons et te bénissons parce que tu es le grand Dieu des cieux et tu nous amènes vers cet autel du parfum pour apporter ce que ton Fils est pour nous. Sa gloire merveilleuse, son obéissance à toi qui a été éprouvée jusqu'à l'heure de la croix. Alors qu'il te posait cette question en Gethsémani, il te disait, ô Père, est-il possible que cette coupe passe loin de moi, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Oh, nous nous attachons à ce moment, nous le regardons là, à la distance d'un jet de pierre, et nous veillons avec lui. Et nos cœurs sont étreints par cet amour, par ce ministère qui était nécessaire pour notre salut. Et là, il est parti seul. Il a été arrêté seul. Il a été jugé seul. Il a été conduit comme un agneau vers ceux qui le tondent. Et il est arrivé à la croix. Et là, il est mort pour nous. Ô Dieu Père, sur ce chemin, il nous mène avec lui maintenant, mais jamais jusqu'à ce point-là. Mais il nous amène pour que nous puissions entrer dans son cœur, dans ses souffrances, dans sa joie aussi. Car il y avait en lui cette joie de pouvoir enfin accomplir ce qui était nécessaire pour que toi, ô Dieu, tu sois adoré. Eh bien, ce matin, à la fin de cette semaine de vacances, de repos, nous voulons t'adorer et te louer pour tout ce que tu nous as donné dans ce merveilleux Sauveur et Seigneur. Et maintenant, accorde-nous d'être fidèles dans notre marche, jour après jour, d'être prudents, d'être soigneux dans la gérance de nos corps, de nos âmes et de nos cœurs, afin que, Seigneur, toi, tu sois honoré en tout premier lieu. Aide-nous à voir que ce corps, c'est en effet le tabernacle de ton esprit, et qu'il habite là, et que le but de ce corps que tu nous as donné, et de l'âme que tu nous as donné, eh bien, c'est toi. Ils t'appartiennent, parce que tu nous as rachetés. Et nous voulons te louer et te bénir, parce que tu nous as envoyés dans ce monde pour être des lumières, afin que nous brillions sur le pied de l'autre. On salue à ceux qui te font confiance. Ô Dieu et Père, nous te demandons que pendant tout cet été, ta parole agisse puissamment. Et tu sais combien de camps il y a, combien de retraites il y a dans tout ce continent et dans d'autres continents et ailleurs, dans tout le monde, dans toute la terre, des milliers, des millions de personnes qui vont être exposées à ta parole. Et nous te demandons pour que cette parole avance ton royaume d'une manière toujours plus extraordinaire. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.